Vous écoutez France Culture.
Vous écoutez France Culture, 16h. Tout de suite, pas la peine de crier.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité de cet après-midi s'appelle...
Antoine Page.
Il est réalisateur. Avec lui, nous évoquons le travail de Zoo Project, avec qui il effectue un voyage en 2012. Zoo Project peignait, entre autres, les murs. Il s'agira de la 4e étape dans cette semaine entièrement consacrée aux murs. Ça commence. Le mur du son est un phénomène physique aérodynamique caractérisé par l'atteinte d'une vitesse au moins égale à celle de la vitesse du son dans l'air, soit 1224 km/h. Ce phénomène provoque une onde de choc sous forme de bang supersonique. La vitesse à laquelle se déplacent les ondes sonores dans un milieu matériel varie en fonction de la température et de la compressibilité du milieu de propagation. La propagation de ce que nous produisons chaque jour, donc, dépend de l'atmosphère qui règne chez vous et partout autour. Vendredi dernier, Christine disait à ce même micro qu'elle était du côté de la douceur. Eh bien, nous, c'est pareil. Nous laissons le mur du son là où il est, pas de Big Bang. Au mieux, on s'appuie tranquillement dessus à l'heure du goûter. Il est 16h passé de 2 minutes, vous écoutez France Culture, et c'est pas la peine de crier. Vers 16h13, si tout le monde se concentre, on fait apparaître une aquarelle. Vers 16h20, quatrième moment de cette semaine consacrée aux murs, les murs de prison, les affiches sur les murs entre les états furent au programme de notre série, lundi, mardi, mercredi. Aujourd'hui, les murs sont peints par Zoo Project et filmés par Antoine Page. Vers 16h50, on écoute des poèmes de Pier Paolo Pasolini et à 17h, nous retrouvons les équipes du 5 à 7. En attendant, profitons de ce que le comédien Stanislas Nordet nous accueille encore dans sa bibliothèque. Il lit chaque jour un extrait d'un livre important pour lui. Et aujourd'hui, c'est Le mal imaginaire de Maxime Montel. On l'écoute.
Nous ne laisserons que nos morts. Il y aura, dans l'ombre pieuse de quelques chapelles, des froissements de mouchoirs, des poignées de main émues. Honneur sera rendu à nos mémoires en brèves oraisons, portraits brouillés de nos traits évanouis. Puis le temps dispersera nos corps, effacera nos traces, et nous ne subsisterons plus qu'à travers le mystère même de notre fin. Notre histoire ne sera plus que cela, une montée vers le souvenir, ordonnée autour de notre dernier soupir. Nos plaisirs, nos bonheurs périront avec nous dans la poussière, où les formes s'estompent, où il n'y a plus de mots. Mais qui saura vraiment rendre le ressort tragique de nos destins. La précipitation du mal, l'enchaînement des crises et des symptômes, la lente aspiration vers le néant, jusqu'à cette crispation ultime qui marquera le terme de nos souffrances. Notre agonie se déroulera sur un horizon d'hypothèses rivales et d'avis contrariés. On ne comprendra rien à nos corps bouleversés, à nos fièvres surgies dans un grand brasier de rougeur, à nos sueurs, à nos vomissements, à nos spasmes. Chacun dira son étonnement terrifié devant nos catastrophes intimes, nos débâcles, les résidus, les flegmes que nous rendrons dans la puanteur d'une liquéfaction anarchique. Jour après jour, la maladie parachèvera son œuvre, perpétuelle oscillation d'attaque et d'armistice, nous vidant de nos sangs, sel, glaire, vapeur. Bientôt, nous ne serons plus que des momies, plus légers dans notre maigreur que des fagots promis au feu. Nous tenterons de résister aux tempêtes, avouant parfois notre frayeur. Nous ferons d'horribles efforts pour vomir comme pour expulser l'incurable, aussitôt exténué par le même manque de force et la même volonté de vivre. Puis, nous apercevrons enfin avec clarté le chemin qui conduit de la vie à la mort et ne rendrons plus rien, ni crachat, ni humeur, ni plainte. Nous rejoindrons alors le règne du silence, de la glace, du vide et des ténèbres et laisserons les vivants à leur euphorie de nous survivre, Certains ne manqueront pas de voir dans notre anéantissement un rappel à l'ordre, le signe d'un échec, ou même la présomption d'un crime. Nous nous éteindrons à leurs yeux dans la lumière coupable d'une faute que nous n'aurons pas commise, comme si la moiteur des fièvres, les emportements d'entrailles, le déséquilibre entre les substances n'étaient que le fruit d'obscurs excès et d'inavouables abus, comme si notre infortune avait pu dépendre de notre volonté, de nos conduites, bref, comme si nous avions pu être à nous-mêmes la cause de notre propre mal.
Un mal imaginaire, c'est un texte de Maxime Montel, Stanislas Nordet. Alors, il est question d'un nous, il est question d'un mal imaginaire, il est question du sida. C'est un nous collectif assez mystérieux. Mmh. Il est question aussi de l'impossibilité à dire la fin, puisque pas de survivant, donc il n'y a personne pour témoigner de ça. Pourquoi vous lisez ce texte ?
Parce que bon, moi, ma génération est une génération qui a vu beaucoup, beaucoup de gens très jeunes mourir tôt, très tôt, trop tôt. Jean-Luc Lagarce, qui est un auteur de théâtre que j'ai monté, que j'aime beaucoup, parlait de la guerre. Il dit ce sont les guerriers. Sont morts à la... c'est une guerre où ont disparu énormément de jeunes gens, comme la guerre de 14-18. Bon, cette guerre-là, peut-être qu'on ne la commémorera pas de la même manière, parce qu'elle est, voilà, elle est moins circonscrite. Et il se trouve qu'il y a un paradoxe. Donc, je suis un homme de théâtre et... les très grands auteurs que j'aime monter ou qui devraient être des auteurs vivants sont des auteurs morts. Donc il y a Bernard-Marie Coltès, il y a Jean-Luc Lagarce, mais il y a aussi Didier-Georges Gabilly. Il y a des gens qui sont morts à la fin de leur trentaine ou dans leur quarantaine. Donc il y a une forme comme ça dans le monde du théâtre, d'ailleurs, de nuages noirs comme ça qui planent quelque part, d'étrangeté. Ce sont des auteurs contemporains, mais ce ne sont pas des auteurs vivants. Donc je dirais que moi, dans mon chemin d'homme de théâtre et d'homme tout court, il y a toutes ces disparitions à la fois d'amis, de proches, et puis ces disparitions d'amis écrivains aussi, voilà, ou Hervé Guibert, dont j'ai monté Vol mon dragon. Et ce texte de Maxime Montel, quand je l'avais lu, j'ai jamais su qui était Maxime Montel, je pense que c'est un pseudo.
C'est son seul texte.
Oui, c'est son seul texte. J'avais trouvé les mots, justement, que parfois je cherchais pour parler de ça, mais pas seulement du sida, c'est en ça que le texte me touche, mais de cette disparition du trop tôt et puis de l'agonie de ces jeunes gens, de ces gens trop jeunes. Parce qu'il y a ça aussi, il parle très bien de ça, il ne parle pas simplement de la disparition, il parle de l'agonie. Il parle de la transformation des corps, de cette chose très très particulière que sont les longues maladies, pas seulement le sida, mais chez des gens jeunes, où tout d'un coup le corps vieillit spectaculairement et vite. Et je trouve que voilà, ce texte de Montel, avec une certaine économie dans le langage, s'est publié dans la collection aux éditions de Minuit, Les Jours et les Nuits, comme je pense David Rousset, L'univers concentrationnaire, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a aussi comme ça une chose sur les hécatombes, sur les grandes catastrophes d'un temps, quoi, un mal imaginaire.
Quelle musique vous voulez mettre après un mal imaginaire ?
On pourrait mettre Tout ce qui est dégueulasse d'Alain Leprest, chanté par Olivia Ruiz.
Amo cocadis, amanit sahel, chrysanthème canine, morsure varicelle, migale tarentule, épine, porte-avion, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Fourmilière aiguille, acide et calice, le chemin des dames, cercueil cicatrice, cyclone ouragan, camisole typhon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Guillotine cirrhose, nuit blanche, les bommettes, mirador stasi, siphon baïonnette, fleurie mérogis, la rue Lauriston, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Amygdale, pavot, vérole, aspirine, échymose, ortie, sanglot, carabine, carmélite, javel, cobra, charenton, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. Camorra, péplum, cyanure, mafioso, Tiananmen, amen, rasoir et ciseaux, hostie Vatican, Jean-Marie, mormon, tout ce qui est dégueulasse porte un joli nom. C'est quoi ton petit nom ?
Marie. Demain, Stanislas Nordet conclut le déballage de sa bibliothèque avec un extrait du livre de Monel de Marcel Schwob. En attendant, faites vos images avec le son, c'est le Polaroid. Au début, le portrait est fixe. Il est précis, beau, il est certain, il n'est pas immobile, il apparaît. C'est le visage qu'on aime le plus profondément, avec des couleurs déposées au pinceau. Avec le même pinceau, il ajoute de l'eau. Elle vient dans les couleurs, le papier n'absorbe pas, le papier les mélange. L'arête du nez rejoint la joue rejoint le cou. C'est l'eau qui mène la danse des couleurs et déforme les traits. Avec le même pinceau, il rajoute du rouge aux yeux. Et les amandes vert clair de tout à l'heure sont empoisonnées par la nouvelle couleur. Les amandes vert clair de tout à l'heure pleurent des gouttes rouges. Avec le même pinceau, aux cheveux, il rajoute des épaisseurs, des longueurs. Et bientôt, il les emmêle dans une seule et même masse sombre. Il range le pinceau. Et il tend le carnet à quelques centimètres de ses yeux, se met à regarder, froid, dur, le portrait qui ne ressemble plus à rien, se met à regarder vraiment, sans dévisager, sans piqûres, sans pleurs, regarder seulement comme une part de vérité remonte à la surface peinte. Il range les couleurs, il range le réveil qui dictait de toutes petites secondes, et il va.
Considères-tu qu'il faille mener la vie dure à ceux que tu aimes le plus? Mener la vie dure à ceux que tu aimes le plus. Considère-les comme si tu venais de les rencontrer. Et à mesure qu'on passe au travers des années, l'on ne se cherche plus, l'on se met de côté, l'on ne se regarde plus, plus vraiment comme c'était quand on s'est rencontrés. Et quand l'azur relâche ses premières étoiles et même un croissant de lune, je revois la plage où déambulait ma brune, perdue par le plaisir consommé dans les dunes. Et je retourne à l'âge, étirant le temps du chant des somnambules, le visage en argent, la cadence débuche, le rire dans les dents, nous mettions le feu. Considères-tu qu'il faille perdre de vue tout ce que nous fûmes en visant vers le luxe? Considères-tu qu'il faille travailler plus, mener la vie dure à ce que tu aimes le plus? Et la fatigue s'installe, jubilé à femme, bientôt le sable brûle, nous cherchons les tables et les couverts de luxe, l'ombre d'un séjour et des enfants à coucher. Mais tu n'as rien qui vaille la peine de le surjouer. Tu m'attrapes et me dérailles, me fais mettre à l'arrêt, me fais regarder l'âge, nous faire nous ressembler. Considères-tu perdre de vue tout ce que nous fûmes en visant vers le luxe?
sur ce Polaroid, on écoutait La vie dure, un extrait du dernier disque de François and the Atlas Mountain. Piano Ombre est sorti au printemps dernier. Le groupe sera un peu partout en concert cet été et à Paris à l'automne. Il est possible d'ores et déjà de réserver vos places pour un concert au Bataclan le 18 novembre. Cette soirée sera l'occasion de présenter le travail de ceux qui entourent François depuis plusieurs années, avec notamment Babe, la formation de l'Écossais Gérard Black et Petit Fantôme, le projet de Pierre Loustonneau. C'est le 18 novembre au Bataclan, à vos réservations. Vous écoutez Pas la peine de crier sur France Culture, il est 16h, passé de 18 minutes, c'est la deuxième partie de notre émission et le quatrième moment d'une semaine qui regarde les murs. Lundi, il s'agissait pour Jeanne Sautière de transformer son expérience en milieu pénitentiaire, en matière littéraire, et de rendre vivante la présence de ceux qu'elle côtoya dans les murs de prison. Mardi, il s'agissait pour Pierre Dichoulot d'évoquer la responsabilité qui incombe à ceux qui accrochent des textes et des images aux murs de la ville. Et hier, il s'agissait pour Stéphane Rosière de discuter d'une mondialisation qui érige des murs anti-pauvres et engraisse l'industrie de la sécurité. Aujourd'hui, les murs sont peints et d'abord en blanc, couleur d'un drapeau pacifié ou pas de drapeau du tout, couleur d'un tissu qui vole librement au vent. Peut-être de longues, larges figures animales hybrides ont attiré l'œil des Parisiens, du nord-est principalement au début ces dernières années. Peut-être ont-ils guetté ces Parisiens l'apparition de ces nouvelles peintures ensauvageant la ville et nous rappelant à une humanité aussi criante et plurielle que ses dessins étaient bouleversants. Zoo Project peignait comme ça dans la ville, puis il a déplacé ses curseurs, changé d'espace d'action, posé ses pinceaux, ses yeux et ses encres sur les révolutions tunisiennes, les camps de réfugiés libyens entre autres. En décidant que c'est assez bien d'être fou, vous prenez la route avec lui, direction les confins de la Sibérie, et de ce voyage de plusieurs mois naît un film qui existe aujourd'hui en DVD, alors que Zoo Project, lui, de son vrai nom Bilal Berini, est mort. Antoine Page, C'est assez bien d'être fou. Le film existe, on parle de son travail. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Quand vous découvrez son travail, vous le découvrez sur des murs?
Alors justement, le paradoxe, c'est que je ne connaissais pas son travail avant de travailler avec lui. Donc on s'est rencontrés sur les conseils d'une productrice, de ma productrice, et je dois dire qu'on ne connaissait pas nos travaux mutuels respectifs. Et en une demi-heure de discussion, on est parti sur un projet qui nous a pris 3 ans et demi. C'est pour ça que je vous disais, je vais parler à la fois de la personne et de son travail. Mais c'est indissociable, parce que c'est le tempérament, le trait de caractère, sa manière d'être au monde, qui était presque plus fulgurante, ou en tout cas, qui était, lui, valorisait le geste autant que le résultat. Donc moi, j'ai découvert après. Mais je savais qu'une personne avec qui j'avais eu, disons, cette rencontre et à qui je partageais, disons, cet état d'esprit, ne pouvait que faire des choses intéressantes. Disons, la démarche était passionnante, quoi. Et donc, j'ai découvert après ces peintures dans Paris.
D'abord dans Paris, c'est la ville dans laquelle vous avez découvert ces peintures.
Voilà, oui, c'est dans Paris. Alors, bon, moi, ça m'intéressait, mais on est tout de suite parti dans un rapport de travail, dans une collaboration. Donc, moi, ce que j'aimais chez lui, c'est que, disons, que les peintures avaient un peu le caractère univoque de dessin de gamin, je trouve. C'était très simple, immédiatement appréhendable, intelligible, compréhensible. Et en même temps, ça prêtait davantage à la rêverie qu'à l'analyse. C'était assez poétique, donc moi, ça m'intéressait. Mais encore une fois, sa démarche m'intéressait encore davantage.
Comment est-ce qu'il vous en parlait de cette démarche-là et quelle était la place des murs dans la parole que lui mettait, ou pas d'ailleurs, sur le geste qu'il faisait?
C'était déterminant. Là, il faudrait peut-être que je parle de comment c'est arrivé, peut-être, dans sa vie. Et je dirais qu'il a choisi, il a expérimenté plein de formats, plein de supports, mais là, le mur s'est imposé. Je pense que c'était son frère qui me disait qu'il a commencé à peindre sur les murs à 11 ans. Et après, il a continué. Enfin, au début, c'était du graphe à l'extérieur. Ouais. Et j'y réfléchissais, mais en fait, le mur, c'est le premier support qui s'impose aux gamins. Et donc, je ne sais pas, lui, il a continué après. Mais il y a ça, en fait. Quiconque, quand on n'a pas la conscience de vouloir faire de l'art, on dessine sur les murs, sur ce qui vient. Lui, il l'a fait donc, sur les murs. Et c'était une sorte de boulimie. C'était une drogue. C'est-à-dire qu'il faisait ça 15 heures par jour, faisait le mur de chez ses parents, était tout le temps dehors. Et ça alliait, je pense, plusieurs traits de sa personnalité, justement autant donc dans la démarche, dans la philosophie, que par rapport qu'un simple support. En fait, c'était beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que c'était l'idée. Il y avait quelque chose de très téméraire déjà chez Bilal. C'était quelqu'un qui aimait se mouvoir, qui supportait pas d'être enfermé, qui était tout le temps à l'extérieur. Il y avait donc cette partie-là, le côté, oui, justement, des défis qui se posaient. Et surtout, je pense que peindre sur des murs, c'est s'affranchir d'absolument toutes les règles. Et ça, ça c'était exactement son tempérament. C'est-à-dire, il n'y a plus aucune norme. On peut faire de plus en plus grand, c'est infini. Et bon, la dernière chose, je pense, qui était vraiment déterminante, après, je ne pense pas que ce soit un choix, encore une fois, ça s'est fait. Bilal, il fonctionnait par instinct, c'était vraiment viscéral.
Il y a un mur qui est là, moi j'ai envie de peindre ou ouais. J'ai besoin de peindre, alors c'est sur ce mur que je peins.
Voilà, cette espèce de jaillissement. Donc il y avait très peu de temps entre l'idée, lui, il fallait que tout aille très vite. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait l'idée, la réalisation immédiate et surtout en fait, la perception par les gens. Et je pense que c'était ça qui était le plus fort pour lui. C'est, il a toujours refusé de faire venir les gens pour voir son travail ou ses dessins, ça ne l'intéressait pas. Lui, il voulait se mettre au milieu du chemin, forcer le regard, aller au contact des gens, enfin, en prise directe, avec les passants. Et c'est ce que je trouve assez fort, finalement, dans le street art, c'est que c'est pas des spectateurs, c'est des passants. Et ça fait toute la différence, en fait. C'est des gens qui n'ont pas forcément envie de vous voir, qui n'aiment pas forcément votre travail, qui ne sont pas, justement, dans l'optique d'être ouverts à ça, ou ils ne sont pas dans un centre d'art, ou quoi que ce soit. Et ça, Bilal, il adorait ça. Il aimait même les réactions conflictuelles. Il aimait choquer, brusquer. Il aimait émouvoir. Il voulait savoir immédiatement ce qu'il faisait.
Mais concrètement, ça veut dire qu'il restait près de ce qu'il avait peint. Comment est-ce qu'il pouvait percevoir ce qui l'intéressait vraiment, à savoir le regard qu'on pouvait porter là-dessus?
Il y a déjà pendant qu'il peignait. Bon, après, il devait aller assez vite, hein, parce que c'était illégal. Hein. Là, je vais peut-être faire une aparté, mais c'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont choqués par le fait, justement, de en quel honneur on pourrait s'arroger le droit de peindre sur des...
Ce qui est une vraie question.
C'est une vraie question, oui. Et moi, pour l'avoir vu beaucoup travailler, et quand on a fait le film en Russie, je m'apercevais qu'en fait, c'était le résultat qui faisait pencher la balance. C'est-à-dire que les gens pouvaient être choqués, mais il y avait une espèce d'émotion qui se dégageait une fois que le dessin était fini. Parce qu'ils voyaient, ça s'inversait, disons. C'était pas seulement... c'était pas du tout une dégradation, et il voyait plutôt l'aspect humaniste de la chose, où une personne s'intéresse à eux, vient sur un lieu, prend le temps de comprendre aussi le support, la forme, de s'intégrer. Ils plaquaient pas n'importe quel dessin n'importe où, c'était quand même réfléchi, et ça leur parlait, peut-être par la simplicité du trait, et à chaque fois, justement, ça évitait les problèmes. Surtout en Russie, bon, les rapports sont beaucoup plus francs et directs, donc si ça ne plaît pas, surtout que nous on peignait sur des murs. Enfin, ils peignaient sur des murs qui pensaient abandonner, ce qui n'était pas forcément le cas. Donc, quand les propriétaires arrivaient, donc on avait tout intérêt à ce qu'ils soient émus par le résultat. Et ça fonctionnait.
Avant de rencontrer son travail à Bilal, donc aussi nommé Zoo Project, quel était votre propre rapport au mur?
Ah, alors là, je ne sais pas. Enfin, j'ai honte de dire ça, mais moi, je regardais très peu, en fait. Non, c'est vrai que je n'avais pas pris conscience de l'importance de ce support-là. Moi, je suis passionné par l'histoire de l'art, mais peut-être une culture plus classique, où pour moi,
vous, les murs,
ça se limite aux fresques, peut-être de la Renaissance ou à l'art pariétal. Mais c'est énorme, mais quand même, ce n'est pas du tout le même état d'esprit. C'est-à-dire que c'est quand même, ce sont des commandes, commandes publiques ou privées, mais il n'y a pas le côté libertaire, anarchique, cette prise de pouvoir, finalement, sur les murs. Donc, moi, au début, je n'avais pas pris en compte ça. Pas vraiment. Je me suis aperçu petit à petit qu'en tout cas, c'était exactement, je ne sais pas si c'est les murs qu'on crée, Bilal, le contraire, mais c'était totalement lié. Une fois, alors là, bon...
Totalement lié à l'attention que vous portez maintenant au mur de la ville.
Oui, ouais, mais à travers lui. Et je pense que c'est quelqu'un qui était un pur... alors, je sais, il ne faisait pas partie, je pense, de les... Il a toujours été difficile à catégoriser, à rentrer dans les cases. Je pense pas les street artistes, il y en a beaucoup qui veulent rentrer dans les musées, par exemple. Pour lui, c'était totalement choquant, c'était insensé, c'était antinomique, c'était pas possible. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui peut être récupéré, on peut pas découper un mur et le transposer. Il y avait une intégrité absolue, totalement radicale, dans le fait qu'un mur, c'est de toute manière illégal et ce n'est pas monnayable. Pour le faire fuir, il suffisait de lui parler d'argent, et là, le lendemain, il partait.
Quand on le regarde peindre, notamment sous votre caméra, il y a quelque chose qui est très chez lui face au mur. C'est-à-dire qu'il y a une aisance totale dans le geste, même quand il y a des croquis dans la main, etc. Il y a une sorte de quasiment de porosité entre son corps et la surface face à laquelle il se tient. Est-ce que c'est quelque chose que vous sentiez en le filmant? Puisque, voilà, après, cette rencontre se transforme en un projet de film sur lequel on va revenir plus longuement, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose dans la façon de le filmer et de l'observer où ça, c'était criant?
Comment ça s'est fait? Oui, ben, en le connaissant, petit à petit, je me suis aperçu que c'était cette manière-là, peut-être qu'il fallait le filmer. C'est difficile d'expliquer parce que c'est aussi très intuitif. Enfin, ma manière de filmer est intuitive. Lui, sa manière de travailler également, ça veut dire que ce n'est pas du tout quelqu'un qui réfléchit en amont.
Il dessine quand même parfois les croquis.
Il dessine, il fait des croquis, il fait des dessins préparatoires, ou alors il part de photographie, en fait, très vite. Vous avez vu, il regarde, et puis il arrive direct à avoir le recul nécessaire pour le faire. Mais je vais faire une digression, mais en venant ici, je me demandais comment l'assimiler pour peut-être faire comprendre à l'auditeur, à un autre artiste, pour qu'il voit un peu la démarche, l'état d'esprit. Et je me suis aperçu que ça collait pas, en fait. Ça colle pas avec l'artiste, l'acception habituelle de l'artiste qui fait des œuvres d'art, par exemple. Là, il y a une espèce de surgissement. Il n'y a pas du tout de calcul. Tout est, oui, viscéral. C'est une espèce de pulsion artistique. Il faut que ça sorte. Et je me disais que ça se rapprochait davantage des artistes d'art brut, par exemple. Parce qu'il n'y a pas cette conscience de faire de l'art, cette volonté de s'inscrire dans le temps. Justement, c'est vraiment le street art. C'est-à-dire, il jouait sur l'éphémérité. Ça allait disparaître. Ce n'était pas monnayable. Il ne va rien rester.
Il ne prenait pas en photo ses œuvres, par exemple?
Non, mais il laissait les autres le faire. Il savait que ça allait être fait. Il était fier de ce qu'il faisait, mais il n'a jamais pris aucune de ses œuvres comme terminée, comme un aboutissement. C'était des recherches permanentes. Donc, quand il était face au mur, bah, c'était son monde, quoi. C'était vraiment un monde un peu autiste. C'est-à-dire que oui, en effet, peut-être il y a ça où il se fondait dans le... Ouais. Mais c'est ce qu'on voit peut-être un peu dans le film. J'en suis aperçu après rétrospectivement, parce qu'on relise toujours un peu différemment. Mais on voit quelqu'un un peu d'extérieur... qui disparaît en fait petit à petit, qui est étranger un peu au monde. Et peut-être face au mur aussi, hein, il faisait qu'un... J'ai du mal à analyser, parce que je ne suis pas non plus dans vraiment d'une approche trop analytique.
Il y a quelque chose qui est clair, en tout cas, que ça s'exprime dans la vie ou que ça s'exprime au cinéma, et comme dans les deux, et comme tout se rejoint dans un film, ça tombe bien, c'est que ça prend du temps tout de même de faire ces peintures-là, et que c'est un temps pendant lequel vous restez avec lui. Mmh. Est-ce que c'était un temps qui était forcément silencieux?
C'était un temps silencieux. En fait, il y avait assez peu de... On était dans les lieux de plus en plus déserts. Là aussi, ça s'est fait assez naturellement. Mais donc, quand on est parti, pour C'est assez bien d'être fou, l'idée, c'était de partir donc, de la France, quelque chose qu'on connaît, et de peu à peu se perdre, en fait, vers la Russie. Enfin, à mesure qu'on arrivait en Europe de l'Est et en Russie. De se laisser absorber donc, par le paysage, petit à petit, alors qu'on était maître un peu... disons de l'itinéraire au départ, après plus du tout. Donc on est arrivé vers des paysages de plus en plus désertiques, abandonnés. Ça s'est fait assez naturellement. Et je pense que Bilal était de plus en plus là-dedans, quoi. Il avait quand même une sorte de... Il avait du mal avec la société actuelle, les modes de fonctionnement habituels, qu'on trouve habituels, qui sont banals et tout ça. Et de plus en plus, et là, on voit quand même qu'il était de plus en plus isolé. Donc il y avait, oui, des grandes plages de silence, surtout sur la deuxième partie du voyage, où c'est beaucoup plus empirique. Mais il y a eu beaucoup de réactions, quand même. Ça, je peux en parler un peu, parce que peut-être que les réactions sont différentes, en fait, en Russie. Et d'ici, par exemple, lui, il a été assez surpris, parce que... ici, dès qu'il dessinait dans les rues, il y a un attroupement, les gens questionnent, il y en a qui n'aiment pas, en tout cas, ça réagit.
Il continue de peindre ? Il continue de peindre.
Mais il se déguisait, par exemple, c'est marrant, mais il se déguisait en employé de la ville, pour ne pas être dérangé, justement, empêcher. Mais il continuait de peindre, mais il discutait, il y avait un échange. Et là, arrivé en Russie, on s'est aperçu que pas du tout. En fait, c'était assez déstabilisant au départ, mais il faisait des fresques immenses, par exemple de 6 ou 7 mètres de haut, enfin vraiment des grandes choses. Les gens passaient et ne s'arrêtaient pas, ne sciaient pas. Et on s'est aperçu, ça vous imaginez en fait, pourquoi c'était le poids en fait de l'histoire, hein, justement, le fait qu'on ne montre pas ses émotions en Russie. Donc là aussi, il y a eu un rapport différent. Et c'est pour ça peut-être qu'on a une raréfaction de la parole dans le film, ou en tout cas peu d'interaction. Mais il y avait tout autant d'émotions, et même plus en fait, parce qu'ils sont beaucoup plus chaleureux quand on commençait à connaître vraiment les gens. Et il y avait beaucoup plus d'émotions face à son travail. Parce que ça n'existait pas, en fait, en Russie. Il n'y a pas le droit de faire des choses sans autorisation. C'est inenvisageable, ça n'existe pas. Donc là, tout d'un coup, quelqu'un qui prend le temps de venir, sans intention, c'était un peu son approche, enfin, ça, c'était notre approche, c'est-à-dire qu'on n'attendait rien, on n'avait pas de thèse, on ne voulait pas faire quelque chose de didactique, on n'attendait rien des gens, donc on restait. Il prenait un peu le pouls, et puis après, il partait, il dessinait. Donc, Voilà, je me suis un peu écarté, mais...
Petit à petit, peut-être pour revenir au mur, petit à petit, en effet, ce film montre votre voyage et les différentes peintures de Bilal. Mmh. Et ce film avance vers des paysages de plus en plus désertiques. Ça fait que les situations géographiques et les décors, entre guillemets, dans lesquels prennent place ces peintures, dans lesquels elles surgissent, sont de plus en plus désertiques. Est-ce que ça changeait ce qu'il y peignait ? Est-ce que ça changeait ce qu'il dessinait sur les murs ?
Mmh. Alors, l'aspect des airs. Alors, là aussi, c'était vraiment très, très intuitif. Moi, je sais pas comment. Par exemple, pour que vous compreniez cerner un peu le personnage, au moment où on est parti faire ce film, on avait envisagé un peu toutes les formes possibles, même une forme que je déteste, l'interview, enfin, une espèce d'échange. On avait prévu de faire quelque chose d'assez
informel. Ce qu'on est en train de faire, quoi, par exemple.
Non, pas du tout, mais là, j'ai plutôt. Oui, bon, comment frapper le coup. Mais enfin, bon. Donc, j'avais décidé de l'interroger de manière plus classique sur un peu le pourquoi du comment. Pourquoi est-ce qu'il était venu au street art? Pourquoi est-ce qu'il faisait ceci, cela? Et on voulait faire un échange, oui, relativement informel. Et donc, au moment de filmer, mais juste avant, il avait fait des choses, il était dans son monde, des choses énormes, ça avait marché avec les gens étaient émus et tout ça, donc il était vraiment dans son élément, hyper joyeux. Et là, j'allume la caméra, je pose une question, fini, quoi. Silence de mort. C'est-à-dire qu'il était incapable de dire pourquoi il avait fait les choses.
Incapable ou il n'en avait pas envie ?
Eh bien, je pense qu'il n'avait jamais réfléchi. Mais vraiment, c'est pour ça que je dis que ça a peut-être plus attrait à l'art brut, c'est-à-dire qu'il y avait un... Ouais, vraiment, ça surgissait. Mais si je lui demandais pourquoi, par exemple, t'as peint des poules, il me répondait parce qu'il y en a ou parce que et tout ça. Alors je ne sais pas si il ne voulait pas s'interroger ou si pour lui ça passait pas du tout par une phase réflexive. Après, c'était pas du tout, je vous dis, il plaquait pas les choses hein, comme ça. Il n'avait pas plein d'idées et puis il les plaquait à droite à gauche, pas du tout en fait. Mais c'était l'espèce de conjonction de plusieurs éléments. Je pense l'ambiance. Il prenait beaucoup de temps en fait pour ressentir les choses. Se baladait, regardait beaucoup. Le lieu, évidemment, il y avait la volonté de faire quelque chose de pertinent sur une forme de mur et éventuellement les gens, mais il n'y avait pas vraiment de recherche préalable. Ça allait très très vite. Et moi, j'ai arrêté de le questionner là-dessus, parce que c'était une puissance agissante, Bilal, plutôt. Il était intéressant à voir peindre, justement, ce que vous disiez, de faire... Ne faire qu'un avec le mur, qu'un avec l'environnement, de réussir à se fondre un peu partout. Mais il ne fallait pas essayer de le pousser dans ses retranchements, en tout cas d'essayer de comprendre pourquoi, l'origine. Ça, je ne sais pas. Et je crois pareil que ses proches, ses amis, sa famille ne savent pas pourquoi l'élément déclencheur. Ça a été. Il y a des choses qui se font, qui jaillissent comme ça.
Il vous questionnait, vous, sur pourquoi est-ce que vous le suiviez ? Pourquoi est-ce que vous étiez avec lui ? Pourquoi est-ce que vous le filmez pendant qu'il fait une sieste après avoir peint pendant des heures ?
Non, il ne me questionnait pas, mais c'est vrai qu'on a beaucoup... on se connaissait très bien avant de partir. Il y a eu beaucoup de préparation et surtout, on s'apprivoisait mutuellement. Donc, et là où le film a changé, et, au départ, c'était juste le suivre. L'idée, c'est que lui, il voulait parcourir le monde et puis dessiner. Et il disait pourquoi ne pas demander à un réalisateur de m'accompagner. Et moi, voyant qu'on s'entendait, moi je lui ai proposé plutôt qu'on réfléchisse ensemble à raconter un voyage dans un film. C'est-à-dire, et là ça devenait un peu plus intéressant parce que déjà c'était moins passif comme attitude.
Et pour vous ?
Pour moi, ouais. Et surtout, ça permettait de réfléchir à une mode de narration. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est évidemment la narration. C'est raconter une histoire. Et qu'importe l'histoire, hein, c'est la manière qui est intéressante. Et là, moi, je m'étais dit, je vais travailler avec un dessinateur qui maîtrise son médium, une très spécifique, c'est-à-dire autre manière, peut-être plus évocatrice, peut-être plus poétique, plus abstraite de raconter un certain moment. Que l'image filmée. Qui est très bien pour évidemment d'autres choses, hein, pour le temps et tout ça, mais là c'était... Et donc c'est comme ça qu'on est parti. On s'est dit, on va transformer ça, donc ça sera à la fois quand même un film sur Bilal, sur sa manière d'être, mais il va être partie prenante dans la narration. Donc il y avait un peu les deux qui s'imbriquaient. Vous voyez, par exemple, il y a des moments qui sont racontés, juste un travelling en dessin qui raconte un village, la traversée d'un village, parce que c'était beaucoup plus empirique, beaucoup plus émouvant, et on retrouvait beaucoup plus ce qu'on avait ressenti sur place. Donc voilà, donc il n'y avait pas vraiment de questionnement, parce que quand vous vous entendez en fait avec quelqu'un dans le travail, on parlait plus, quoi. Ça c'était génial, c'était là où c'était vraiment une collaboration passionnante.
Moi, je pensais faire un truc au-dessus, juste des trucs comme ça. Parce que toi, tu fais derrière, pas assez blanc. Et c'est plus beau si t'as une petite tête.
Є в нашого року. Тут була багата організація. Багата. На чотири райони обезпечали. Спермою. Ну, корів запліднювали, ти розумієш? Корів запліднювали. Сперму розвозили Яворівські, Самбірські, Городоцькі і Пустомостовські райони. От. Ну, після Горбачова, як Горбачов то все розвалив, перестройка, то все розлетілося. Почали люди розносити, розбазарувати, то все обкрадати. Тут була техніка, комбайни, автомобілі були, машини, от, трактора, сільхозтрактора. Багато було тут. Все розіграли, рознесли люди.
Antoine Page, du son de ce voyage devenu film, de ce film devenu voyage, c'est assez bien d'être fou que vous entreprenez avec Bilal Akazo Project jusqu'en Sibérie, c'est ça le point le plus éloigné ?
Jusqu'à Vladivostok.
Jusqu'à Vladivostok. On entend au départ une langue qui n'est pas la nôtre et face à laquelle vous avez dû, et Bilal et vous, composer. Est-ce que vous la maîtrisiez ?
Non, c'est un bien grand mot. J'en avais fait, c'était ma première langue. Fort longtemps. Donc oui, j'avais des rudiments.
Et
heureusement, ouais, des russes. Parce que c'est un peu malvenu de parler en anglais en Russie et on ne voulait pas du tout. Hein. Il était hors de question de parler une autre langue dans les pays qu'on avait traversés. Donc ça a permis vraiment de nouer le dialogue. Ils ne sont pas du tout habitués, en général, même en Ukraine surtout, à avoir des gens qui parlaient un peu russe. Mais oui, je parle.
Ce qui pose la question de ce qu'on appelle le mur de la langue, c'est une expression très heureuse pour la semaine thématique qui nous occupe, mais en même temps, c'est quand même une réalité quand on entreprend ce genre de voyage. C'est d'autant plus une réalité si l'on revient au fait que The Project était un projet aussi de parole, à savoir discuter avec les gens devant lesquels ou à côté desquels les choses étaient peintes par Bilal. Est-ce que lui pouvait parler directement ? Est-ce que vous étiez l'interprète ? Comment se passaient les dialogues dans les terres reculées des pays de l'Est ?
Ce qui est fantastique, c'est le dessin. En fait, c'est quand même la meilleure manière, c'est encore mieux que la langue, c'est-à-dire de dessiner ça tout de suite. C'est pas du tout une manière intrusive d'intervenir. C'est ça qui était passionnant aussi pour moi, parce que filmer est intrusif, c'est assez gênant, je trouve, comme rapport. Là, ça passait par Bilal, donc c'est un vecteur, c'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus... Oui, c'est pas interventionniste. Les gens sont fascinés quand même par ça, donc ils dessinaient très vite. Donc il y avait les deux. Et ce qui a fonctionné, c'est un peu ce que je vous disais, c'est notre approche de ne rien attendre. C'est-à-dire, les gens nous voyaient arriver avec notre triste camion des années 70, plutôt de la peine pour nous. Donc ils avaient envie de nous aider, ils savaient pas trop ce qu'on faisait. Donc petit à petit, ils découvraient. Et surtout, moi, j'ai découvert une bienveillance incroyable à l'égard... je n'ai pas envie d'employer artiste comme terme, mais à l'égard
de celui qui peint,
et même de l'art en général. Ils étaient très curieux, beaucoup plus que nous, par rapport à la démarche, à la méthode, au pourquoi, et puis au résultat. C'est-à-dire que même la police, qui arrête en fait tout le temps, hein, systématiquement, c'est la règle, dès qu'ils savaient que c'était pour un projet autour du dessin et tout ça, eh bien, il y avait une bienveillance totale. Ils étaient curieux, ça les intéressait et tout ça. Donc la barrière de la langue, on ne l'a pas vraiment eue. Alors ce qui est intéressant, c'est ce que ça a produit, c'est par exemple, moi je comprenais un peu le russe, mais pas tout. Donc j'arrivais à lancer le dialogue, à initier, Après, je faisais semblant de comprendre. Donc, ça m'a permis, de faire traduire des choses et de découvrir énormément de choses que je n'avais pas compris sur le coup. Donc, nous, on était un peu dans une sorte de nébuleuse, quoi, dans un autre monde, un peu flottant.
Vous ne compreniez pas trop.
Parfois pas, ouais. Les gens non plus, ne savaient pas trop, donc on pataugeait. Et c'est ça qui a donné un peu cette ambiance, quoi. Au film. Et c'est pour ça que petit à petit, il y a vraiment une raréfaction de la parole. C'est-à-dire qu'on est vraiment... On était perdus, nous. Donc il n'y a quasiment plus que les sons. C'est les sons qui prennent la place, en fait, sur les dialogues. Et les réactions avec les gens, elles étaient davantage, en fait, physiques. Ça passait pas tant par la parole. Plutôt par des réactions.
Par exemple, il y a une scène très très belle, je ne sais plus dans quel village c'est. Il me semble que c'est le jour de Pâques. Mmh. Et en effet, on voit Bilal qui peint un coq ou une poule sur un mur. C'est un premier, on se dit que ce sera la seule poule ou le seul coq. Mais en fait, il va en peindre plusieurs dans ce village-là. Et c'est assez merveilleux ce qui se passe à l'image. Après, le temps est resserré, il y a un effet de montage qui fait que c'est merveilleux au premier sens du terme. Mais quelles ont été, par exemple, les réactions du surgissement de ces animaux dans un espace qui avait des animaux, mais des vrais ?
Pour parler spécifiquement de cette séquence, il y avait cette conjonction de tous ces éléments, cette espèce de précipité. Parce que vraiment, la musique est diégétique, c'est ça qui est fou. C'est qu'on entend vraiment une espèce de combat de clochers orthodoxes. L'Ukraine, tout est... Enfin, je ne vais pas dire ça, mais bon, tout est abandonné quasiment, sauf les églises qui sont flambant neuves. Donc, il y avait ça, donc c'est tout d'un coup un mélange de genres incroyable. Donc les rues sont désertes, ils sont tous à l'église, il y a des chants liturgiques orthodoxes partout qui sont diffusés, et Bilal l'a choisi de peindre des poules, parce qu'en Ukraine, c'est la première chose qui se saute aux yeux, c'est qu'il y a des poules partout. Et donc après, la réaction des gens, comme je vous disais, c'est qu'il y a une première réaction de pudeur ou de fausse ignorance, enfin en tout cas... Je ne sais pas, comme s'ils ne voyaient pas. On passe devant. Et puis en fait, ils passaient plusieurs fois devant. Parce que la première fois, c'était la sidération, quand même.
Il faut dire que ces poules, elles sont peintes sur plusieurs mètres de largeur et plusieurs mètres de hauteur, au milieu de pas grand-chose, quoi.
Mais au milieu de rien, et dans un pays où on fait tout avec autorisation. Donc, il y avait quelque chose qui ne rentrait pas du tout dans la manière de penser des Russes. Donc, ils pensaient au départ que c'était peut-être autorisé, mais ils ne comprenaient pas. Et nous, c'est vrai qu'on avait tendance à penser que les murs étaient abandonnés. Par exemple, dans ce cas de figure, la poule, il a commencé à la peindre, il a mis genre peut-être 2-3 heures, et est arrivé le gardien, parce que en Europe de l'Est, en tout cas en Ukraine, il y a des gardiens partout, c'est des gardiens de rien, parce qu'il n'y a plus rien à garder, mais ils sont tous là. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de mur abandonné.
Que vous rencontrez et avec lesquels souvent vous parlez d'ailleurs.
Voilà, on est non-stop confronté aux gardiens et aux mécaniciens, c'est tout le temps à cause du camion. Et là, pareil, le gardien qui voit ça, qui découvre tout d'un coup une poule de 6 mètres de haut, il n'arrivait même pas à parler, c'était impossible pour lui de verbaliser. Et sauf que là, c'était la force, je pense, un peu de l'art et du style, quand même, de dessin de Bilal. C'est qu'après, il était hyper ému, quoi. C'est que... Parce qu'il se disait, je pense, pourquoi venir au bout du monde, chez nous, pour faire quelque chose d'immense ? Jamais il se disait, c'est de la dégradation, quel scandale et tout ça. Parce que je pense que c'était l'état d'esprit, quand même, de Bilal qui transparaissait à travers ses dessins.
Question à laquelle il ne pouvait pas exactement répondre, et vous non plus, finalement.
Ben non.
Pourquoi venir au bout du monde pour peindre des poules géantes ?
Eh ben non, mais je pense qu'il aurait... Non, je ne sais pas. Et ce que je vous disais, c'est qu'on n'avait pas d'intention. Alors, ce qui est très compliqué à vendre, hein, quand on fait un documentaire. Alors là, bon, c'est un autre problème, mais on vous demande pourquoi Vladivostok. Nous, on est parti sans carte, on est parti sans rien, on est parti avec un camion, et enfin sans rien, si avec d'autres matos, mais sans vraiment l'idée de destination, à part ce but un peu... c'était un but, c'était une orientation, c'était partir vers l'Est, jusqu'à Vladivostok, parce que symboliquement c'est le bout du bout, un peu. Oui.
Les pauvres n'ont pas de domicile. Ils ont un foyer, parce qu'ils se souviennent de leur mère, de leur grand-mère, ou d'une tante qui les a élevés. Un domicile est une forteresse, pas une histoire. Il tient la sauvagerie à distance. À un domicile, il faut des murs. Presque tous les pauvres rêvent d'un modeste domicile, comme d'un rêve de repos. Quel que soit leur entassement, les pauvres vivent à l'air libre, où ils improvisent non pas des domiciles, mais des endroits bien à eux. Les pauvres vivent avec le vent, avec l'humidité, les tourbillons de poussière, le silence, le bruit insupportable, parfois les deux, ce n'est pas contradictoire. Avec des fourmis, de gros animaux, des odeurs venant de la terre, les rats, la fumée, la pluie, des vibrations venues d'ailleurs, des rumeurs, la nuit qui tombe, sans oublier qu'ils vivent les uns avec les autres. Raconter des histoires parmi les pauvres a un secret. Les histoires sont racontées pour qu'on puisse les écouter ailleurs, où quelqu'un, ou peut-être une foule de gens, sait mieux que le conteur ou que les protagonistes de l'histoire ce que la vie veut dire. Les puissants ne peuvent pas raconter d'histoires. Les forfanteries sont le contraire des histoires. Et toute histoire, même si elle est timide, doit être sans peur. Or, les puissants vivent aujourd'hui les nerfs tendus. Les histoires sont une manière de croire que la justice est imminente. Et cette croyance peut à tout moment mettre aux prises avec une extraordinaire férocité enfants, femmes et hommes. C'est pourquoi les tyrans redoutent les histoires. Toutes, d'une certaine manière, renvoient à celle de leur chute. Les multitudes ont des réponses à des questions qui n'ont pas encore été posées et la capacité de survivre au mur. Ce soir, avec deux doigts, suis le tracé de ses cheveux avant de t'endormir.
Antoine Page, c'est un extrait d'un texte que j'ai brièvement évoqué hier qui s'appelle « Survivre au mur », signé par l'écrivain et essayiste John Berger. Tout à l'heure, vous avez dit finalement qu'importe les histoires, ce qui compte, ce qui comptait pour nous avec Bilal et ce travail-là de film, c'était la forme que prenaient ces histoires-là et ce qu'on mettait dans notre geste. En fait, qu'importe les histoires, si on écoute un tout petit peu ce que dit John Berger dans ce texte « Survivre au mur », il y a tout de même une petite nuance à qu'importe les histoires, parce que dans ce film-là, vous ne racontez pas les histoires de n'importe qui si vous racontez des histoires. C'est tout de même des histoires de certaines géographies, de certains êtres qui n'ont pas exactement la même possibilité de parole que nous autres, avec un très beau micro ici, par exemple, à France Culture. Il y a une dimension extrêmement politique au travail de Bilal dans son origine et une dimension politique à ce film. C'est assez bien d'être fou. Dans quelle mesure était-elle mesurée par vous et voulue par vous deux, cette dimension politique?
Oui, ben, c'était un peu même le titre, c'était un peu ça pour nous, parce qu'on le voulait performatif, c'est-à-dire que Bilal, ça vient en fait de l'abécédaire de Deleuze. Deleuze le dit comme ça au détour d'une phrase, c'est assez bien d'être fou. Et c'est pas justement, c'est bien d'être fou, ça aurait été péremptoire, on n'en était pas fou, mais c'est assez bien d'être fou, c'est un appel, en fait, à la folie douce, je ne sais pas, mais à faire les choses. Et Bilal, c'était ça, c'était le volontarisme, à tout craint. C'est-à-dire, c'est de manière permanente, une puissance agissante, faire les choses et essayer de créer quand même une dynamique, donner envie. Et c'est pour ça, pardon, état d'âme, mais ce que j'ai trouvé dur, suite quand même à sa mort, c'est la manière dont on l'a mis assez rapidement, je pense, dans la case, parce qu'il faut quand même mettre les gens dans les cases, et on en a une où on met les gens qui rentrent pas dans les cases, c'est la case artiste, alors je sais pas, marginal, ou tout, hein, on a les poètes rimbaldiens, enfin n'importe, tout ce qu'on comprend pas, on le met dans cette case-là. Et ça aboutit à... En fait, on se remet pas en question, parce que, justement, on se dit pas que ça peut nous toucher, hein. C'est séparé, c'est la case des gens qui sont trop... Alors peut-être trop radical, je sais pas, peut-on être modérément radical, je sais pas, mais il y a cette idée que c'était trop passionné. Mais Bilal, il n'était pas du tout trop, et c'est peut-être ce qu'on voit dans le film, c'est qu'il était juste, c'était même pas un rebelle, il était dans son monde. Il choisissait de faire les choses à sa manière, dans son idée. Lui, c'était, ce qui l'intéressait, c'était d'apprendre des choses, tout le temps. Il était boulimique de ça, il voulait tout savoir, tout connaître, tout expérimenter, tout le temps, voilà. Il refusait les contingences, il ne les voyait même pas, il ne voyait pas les obstacles, il ne voyait rien, il fonçait tout le temps. C'était assez fou. Et moi, je trouve qu'on valorise tout d'un coup le travail, on dit c'est merveilleux, quelqu'un comme ça, mais finalement, on a peur un peu de l'état d'esprit, de l'attitude. Parce que l'attitude est dangereuse, c'est sûr. C'est ne pas se ménager, c'est ne pas se préserver. Ça, c'est assez fou. Mais là, il ne voulait pas se contenter de vivre, il voulait vraiment exister, se sentir exister, faire des choses dingues. Et ce que je trouve aussi un peu dommage, c'est qu'évidemment, ça n'amène pas à se remettre en question. Alors ça, c'est très dur quand on voit quelqu'un qui a toujours été dans l'action disparaître et que finalement, il reste rien parce qu'on le sait, son travail va disparaître. Son travail sur les murs, il l'a voulu éphémère. Donc là, il n'y en a presque plus déjà, donc il n'y aura plus rien. Et ça montre bien que pour lui, ce n'était pas que ça. Pour lui, quand il peignait sur les murs, je pense qu'il y avait aussi cette idée de déclencher quelque chose, donner, produire une étincelle, que des gamins, je ne sais pas, voient la chose et se disent « Waouh, c'est possible de faire un immense !»
Chose qui a pu se passer, par exemple, dans des camps en Libye, par exemple, qui a pu se passer en Tunisie, où des gens, quand lui quittait le camp, prenaient leurs crayons et commençaient à dessiner, et commençaient à mettre sur le papier ou sur des murs un nouveau geste. Ça, on peut considérer que ça reste, d'une certaine manière.
Mais c'est tout à fait ça. C'est ça qu'il faudrait, faudrait que ça fasse école, je ne sais pas, un tempérament. Cette idée de faire les choses, de ne pas se protéger. Parce que Et moi aussi, ce qui me dérange, c'est qu'évidemment, il y a eu une fin tragique, vraiment horrible. Et ça pourrait presque conforter, tu vois, certains dans l'idée que, bon, tout ça pour ça. Voilà. Est-ce que c'était trop radical et tout ça. Mais le temps, il dure pas. C'est pas la même durée hein, quand on vit ça. On veut pas juger des gens qui se ménagent toute leur vie. Ils ont vécu beaucoup moins que, par exemple, Bilal, qui n'a pas duré longtemps. Mais c'était pas du tout l'enjeu. Ça n'avait pas, c'était pas ça. Et c'est vrai qu'il faudrait, oui. Moi, au départ, c'était ça. Ezou Project, il avait pensé comme quelque chose de collectif au départ. Après, il n'avait pas du tout un état d'esprit collectif, lui. Il était très individualiste. Il était dans son monde, c'est même pas individualisme. Il était seul. Ouais, c'était vraiment ça. Ouais. Une sorte d'individualisme héroïque. Enfin, il aimait bien, donc il construisait aussi son personnage. Mais peut-être pour que ça fasse des émules. Et pas, il supportait pas les admirateurs. Hein. Il n'y avait rien de plus passif pour lui. Lui, il avait envie d'apprendre au contact de gens passionnés. Les admirateurs, bon, ça flattait son ego, son orgueil pendant deux secondes, mais il était direct passé à autre chose. Il ne s'appesantissait pas du tout là-dessus. Donc voilà, c'est un peu un constat que je trouve assez difficile après coup. Bon, comme quand on perd une personne, mais là, c'est particulier, parce que c'est quelqu'un qui a tout le temps été dans faire les choses, quoi, tout le temps. Et c'était, il ne se pensait pas marginal. Ça aussi, c'est assez bizarre, ce problème de normes, là, c'est complètement arbitraire. Nous, quand on bossait ensemble, on ne pensait pas du tout être des génies marginaux, des artistes maudits. Pas du tout. Tout était simple. Les problèmes n'étaient pas les mêmes, disons. Et lui, dans son idée, il était dans son monde, mais il ne s'est jamais positionné comme un rebelle. Il ne luttait même pas contre les choses. C'était une proposition de fonctionnement et qui marchait. Voilà. Je pense qu'il a marché malgré cette fin lamentable. Et bon, voilà.
Heureux hasard, depuis lundi et jusqu'à demain, on feuillette un recueil qui s'appelle « Dans le cœur d'un enfant » de Pier Paolo Pasolini, une traduction signée Luigi Scandella. Le poème aujourd'hui s'appelle « Suite Frioulane 1 et 2 » et il nous est lu par Pierre Ancis de la Comédie Française. On l'écoute.
Un enfant se regarde dans le miroir. Son œil rit, noir. Mécontent, il regarde à l'envers pour voir si cette forme n'est pas un corps. Mais il voit seulement le mur lisse ou la toile d'une araignée maligne. Sombre, il retourne voir dans le miroir sa forme, une lueur sur la vitre. Moi, enfant, je regarde dans le miroir et le souvenir me rit, léger. Le souvenir de ma vie vive, comme une herbe sur une noire rive. Mais, non content, je me retourne pour voir si quelque chose me fait mal. Une lueur est une lueur. Elle est seulement le blanc d'une lueur.
And here's another of my favorite songs. Maybe it's one of yours too.
Thank you.
Antoine Page, qu'est-ce qu'on entend là?
Ah, alors c'est une version de Pete Seeger de Plaine, Oma Plaine, enfin un chant patriotique russe. L'apologie guerrière, un chant belliqueux, pro-armée rouge, mais où on sent, c'est toujours le paradoxe des Russes, c'est quand même, c'est pétri d'humanité, l'humanité grisant, enfin, c'est vraiment d'une efficacité redoutable. Et c'est quelque chose qu'on écoutait, ça allie sa passion pour le folk, il était passionné de hobo, enfin, il rêvait de ça, et notre projet en Russie.
Le projet en récit, Voyage, dont on a parlé, film, C'est assez bien d'être fou, existe en DVD, c'est comme ça que je l'ai vu, et on peut aussi le voir autrement, de quelle façon, Antoine Page, bientôt.
Bon, alors il y a des projections organisées, il faut que j'actualise le site internet de C'est assez bien d'être fou, et sinon on va faire une projection en hommage, donc dans les Cévennes, le 13 septembre, et il a peint un réservoir d'eau perdu dans la forêt, où il a créé, enfin le dessin d'ailleurs c'est tout bilal, c'est-à-dire que c'est la chaîne de l'évolution, ça commence de la cellule, ça transporte,
c'est très, très
tout
beau,
ça,
ouais.
Et c'est l'homme qui finit par écraser la cellule qui l'a fait naître. Et donc voilà, on va se retrouver entre amis proches là-bas, donc s'il y en a qui sont dans les Cévennes et que ça intéresse, pareil sur le site internet.
Et on mettra sur notre page, et puisqu'on a parlé de 2-3 choses illégales pendant cette heure, sachez que la peinture qui subsiste à Paris, elle se voit si l'on prend les parties illégales de la petite ceinture autour de Paris, juste en bas de la Flèche d'Or, une magnifique peinture sur la droite, levée de nez, c'est sublime. Pour écouter cette émission, franceculture.fr, vous pourrez vous abonner au podcast Poèmes du jour, Polaroid et bibliothèques. Un formulaire fonctionne parfaitement pour vos formules. Merci beaucoup pour vos retours d'écoute. Aux manettes aujourd'hui, c'était Pierrick Monsigny, Cyril Baer, Inès Duperron et Romain Debecq-Delièvre. Pense et prépare cette émission avec moi, une émission réalisée par Anne-Laure Chanel.